Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne. On espère que celui-ci t'encouragera et t'équipera. Pour plus d'informations sur notre église, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisehome.com.
Voilà, merci Brandon. Je vais faire comme lui d'ailleurs, je vais dire tout de suite, je vais annoncer tout de suite la couleur. Donc si vous entendez un accent, c'est normal, parce que je suis une bonne vaudoise. Voilà. Et c'est un privilège d'être devant vous ce matin. Normalement, je suis à votre place, donc ça change un peu la perspective. Je ne fais pas trop ma maline, je dois dire, parce que habituellement, je fais plutôt des témoignages, mais prédication, c'est très, très rare. Donc, je n'ai pas vraiment l'habitude de faire ça. Alors, c'est un sacré défi pour moi, et d'autant plus un défi parce que je le fais devant la famille, devant cette famille que j'aime énormément, devant vous, Home. Je suis chez moi. Et c'est presque un peu plus dur, je dirais. Alors, on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Sandrine et puis j'ai deux jobs actuellement. Je suis accompagnatrice en sport pour des personnes qui ont des problèmes psychiques dans une institution psychiatrique. Et là, je fais du sport avec ces personnes. Et puis, mon deuxième job, c'est que je suis aumônière pour les sportifs de haut niveau, avec Athletes in Action, qui fait partie de Campus pour Christ. Donc voilà, si vous voulez... Il y a Karim qui fait « Ouais !» qui a fait son stage à Campus. Alors voilà, si vous voulez savoir plus là-dessus, ben, je suis là. Vous me verrez aussi les dimanches ou dans les activités de Home. Donc n'hésitez pas, je serais ravie de discuter plus avec vous là-dessus. Difficile de savoir quoi apporter parce que la parole, elle est pleine de sujets. Aussi la vie de disciple, la vie de foi aussi, il y a énormément à dire. Mais ce matin, j'avais vraiment, vraiment à cœur de parler de Jésus, en fait. Étonnant, n'est-ce pas ? Mais de revenir vraiment à l'essentiel, je dirais, parce qu'il y a un aspect de Jésus qui me parle énormément, qui me touche énormément aussi. Et puis, j'ai vraiment envie qu'on puisse découvrir une nouvelle dimension de cet aspect de Jésus. Et ma prière, c'est que vous repartiez avec plus de lumière ce matin. Et puis, comme je suis aussi un peu coach sportive, j'ai aussi à cœur qu'on puisse développer un nouveau réflexe dans nos vies. Alors voilà, j'annonce tout de suite la couleur. Mon sermon, il s'intitule « Allume la lumière ». Come on. Yeah. Alors, c'est assez facile, hein, on le fait souvent sans y penser chaque jour. Hein. Le petit interrupteur, ce matin, vous l'avez fait plusieurs fois sans doute, sans s'en rendre compte, mais est-ce qu'on le fait aussi pour nos vies ? Allume la lumière, c'est un geste tout simple, quelque chose de tout simple. Et pourtant, combien de fois on l'oublie dans nos vies ? Cette phrase, elle ne vient pas de moi, en fait, elle vient d'un monsieur hollandais qui s'appelle Theo van der Velle. Je faisais une formation d'accompagnement pour des personnes qui ont été abusées sexuellement dans l'enfance. Donc un ministère, quelque chose de très, très dur, très lourd, très compliqué. Et le fondateur de cette formation, Théo, qui accompagne énormément de personnes avec ces problématiques-là, quelqu'un lui a demandé une fois, mais comment vous faites en fait quand vous accompagnez ces personnes ? Quand vous faites face à tant de difficultés, quand ces situations sont tellement lourdes, quand ça nous dépasse, quand vous faites face à l'impensable, mais comment vous faites ? Et puis sa réponse a été « j'allume la lumière ». Si simple, si profond. En fait, en gros, ce qu'il disait, c'est « j'invite Jésus », parce que moi aussi, ça me dépasse. Donc j'invite Jésus, simplement. J'invite Jésus, pourquoi ? Parce qu'il le dit lui-même, dans Jean 8, 12. Il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » La lumière du monde, elle est prête à transpercer nos ténèbres. Il n'en va que de nous de l'allumer, cette lumière, dans nos vies. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté cette vérité dans ta vie. Est-ce que la lumière du monde a déjà amené un nouvel éclairage dans les situations de ta vie? Est-ce que tu as ce réflexe d'allumer la lumière dans toutes les situations que tu vis? C'est un peu ces petites questions que j'avais en tête ce matin, parce qu'on passe vite sur cette phrase, on passe vite sur cette vérité. Et pourtant, elle est tellement profonde. Alors ce matin, on va se plonger un peu plus là-dedans. Vraiment, on va faire un plongeon dans cette lumière. Vous allez repartir, hein, j'ai pris mes lunettes, parce que si ça marche, on va repartir, moi je vais mettre les lunettes. Mais quel culot, Jésus, d'affirmer ça. Quel culot. Vous imaginez ? Parce que si on lit dans Genèse, si on reprend le tout début de la Bible, le tout début de l'histoire de l'humanité, en fait, la lumière, c'est la première chose qui est apparue. La toute première chose. Genèse 1:4, c'est Dieu qui dit que la lumière soit, la lumière fut, avant même la création de la terre, avant même la création de toute autre chose, c'est la lumière qui était présente. Et ça, on l'oublie souvent, on se dit, quand Jésus, il affirme en public, je suis la lumière du monde, en fait, en gros, il est en train de dire, j'étais là avant toute chose, et puis je suis source de toute vie. C'est pas rien. C'est une sacrée vérité qu'il aimait là. Alors, forcément, ceux qui ont entendu ça, quand Jésus l'a dit, notamment les pharisiens, ils n'étaient pas très contents avec cette affirmation. Ils n'ont pas accepté. Peut-être à juste titre, ils ne l'ont pas accepté parce qu'ils l'ont accusé, en fait, de se rendre témoignage à lui-même. Ils lui ont dit, cette affirmation-là, c'est bien joli de le dire, mais en fait, tu le dis toi-même, personne d'autre le dit. C'est facile de dire, je suis ça. Moi, par exemple, je pourrais dire, je suis la meilleure pâtissière du monde. Il y en a qui rient, parce que peut-être que ceux qui me connaissent, ils savent que c'est vraiment pas l'affirmation pour moi, quoi. Donc, je suis nulle en cuisine. C'est pas mon truc. Donc, facile, je peux le dire, mais si personne d'autre le dit, s'il n'y a pas d'autres témoignages qui disent, en fait, moi, j'ai goûté un de ces trucs, un de ces gâteaux, et puis, c'est vraiment la meilleure du monde. Si personne d'autre le dit, ça vaut rien. Donc, quelque part, les pharisiens, on peut se dire peut-être qu'ils avaient raison. Mais en fait, Jésus, il répond à ça, il dit, il y a deux témoignages, et dans la culture juive, deux témoignages étaient suffisants. Le premier témoignage, c'est lui-même, Jésus, et le deuxième témoignage, c'est son Père, Dieu. Et en fait, si on y réfléchit, on se dit, forcément, il ne pouvait pas y avoir 36 000 témoins, vu que c'était la première chose qui a été créée. Donc en fait, quand la lumière est apparue dans le monde, il y avait effectivement Dieu, le Saint-Esprit et Jésus. Donc il ne pouvait pas y avoir 36 000 témoignages. Donc ces deux témoignages devraient être largement suffisants, puisque c'était les deux qui étaient présents à ce moment-là, qui le disent. Mais les pharisiens, ils ont aussi, je ne vais pas dire une mémoire courte, mais il y a quand même tous les prophètes, enfin pas tous, mais une bonne partie des prophètes de l'Ancien Testament qui annoncent à plusieurs reprises que le Messie, c'est la lumière qui viendra éclairer les nations. Donc il y a quand même beaucoup plus de témoins qu'on pense. Et puis aussi, j'ai envie aussi ce matin de regarder à trois personnes du Nouveau Testament qui ont fait une rencontre toute particulière avec la lumière. Et ces trois personnes, je vais commencer par Siméon. Siméon, peut-être que vous le connaissez, peut-être pas. En fait, c'est un homme qui était très pieux et qui se rendait régulièrement au temple à Jérusalem. Et il avait quelque chose à cœur, sur son cœur, c'était que lui, il attendait le Messie, il attendait le Sauveur de son peuple. Il l'attendait vraiment avec impatience dans son cœur. Tellement que Dieu, le Saint-Esprit, est venu à lui pour lui dire « Tu ne vas pas mourir avant d'avoir vu le Sauveur. » Donc il lui a donné cette affirmation, cette confirmation qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Sauveur. Et un jour, il se rend au temple et là, il voit un petit bébé qui est à 8 jours. Et c'est ses parents, Marie et Joseph, qui ont amené Jésus au temple à 8 jours pour le faire circoncire, pour le consacrer à Dieu et pour faire les rites normaux pour un premier-né dans une famille juive. Et quand Siméon, il voit ce bébé, il le prend dans ses bras et tout de suite, il reconnaît que c'est la lumière du monde. Tout de suite, il reconnaît que c'est lui le Sauveur. Vous imaginez ? Un truc de fou parce qu'on se dit, purée, mais c'est qu'un petit bébé. Et puis, il voit déjà ça en lui. Et il s'exprime, il dit un truc juste incroyable, Simon, il dit, il est le Sauveur, la lumière pour éclairer les nations. Waouh, il voit un bébé du jour et il dit ça, quoi. Donc voilà un autre témoin de la lumière. Mais là, on peut se dire, bon, ok, Siméon, il connaissait les Écritures, il connaissait les prophéties, donc il savait que des prophètes avaient dit ça sur le Messie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un autre témoin de la lumière dans la vie de Jésus, et cette fois, ce n'est pas un juif. Ce n'est pas quelqu'un qui croyait en Dieu, forcément, ou on ne sait pas trop, mais il n'était pas juif, en tout cas. Et c'est à la toute fin de la vie de Jésus, quand Jésus est sur la croix, qu'il est en train de mourir sur cette croix, qu'il est à l'agonie, eh ben, la lumière, elle s'éteint. La lumière du monde, c'est Jésus, et la lumière est en train de s'éteindre. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a l'obscurité qui envahit tout le pays. Tout le pays est plongé dans l'obscurité pendant 3 heures. Logique, non? La lumière s'éteint et tout le pays est plongé dans l'obscurité. Et là, l'officier romain qui voit ça, là, il s'exprime lui aussi. Et il dit, il rend gloire à Dieu et il dit, cet homme était juste. Pas juif, pas de connaissance des prophéties. Et pourtant, il voit ça et il comprend. Il comprend lui aussi que c'était la lumière du monde. Maintenant, on va voir un troisième personnage qui, lui, par contre, a fait une rencontre fracassante, mais alors fracassante, avec la lumière. Et à juste titre aussi, parce que, en fait, je ne sais pas si ça vous arrive, des fois, vous êtes dans le noir, et puis il y a quelqu'un qui vient allumer la lumière, comme ça, d'un coup, sans prévenir. Ce n'est pas très cool, hein. Moi, ça m'arrive parfois, mais purée, ça fait mal, hein. Ça pique, mais ça, des fois, ça fait même mal, quoi. Et là, on a un personnage qui vivait dans les ténèbres, sans le savoir, en fait. Il s'agit de l'apôtre Paul. Paul, il avait à cœur de servir Dieu. Il connaissait bien les Écritures aussi. Et il avait vraiment à cœur d'obéir à Dieu et de servir Dieu. Et lui, il croyait que le Messie, donc Jésus, c'était une imposture, en fait. Donc, il a fait partie de ceux qui ont persécuté les premiers chrétiens, les premiers croyants en Jésus. Il participait activement à des lapidations, à des exécutions de chrétiens, et il pensait faire juste parce qu'il était certain qu'il était en train d'obéir et de servir Dieu en faisant cela. Quelle noirceur quand même dans sa vie de se dire qu'il était dans l'assassinat de personne, en fait. Sans savoir, il était dans le noir, dans les ténèbres, et là il y a la lumière du monde qui est venue se révéler à lui. Et là, bim, ou bam, ou boum, ou je ne sais pas comment le dire, mais rencontre fracassante avec la lumière. Pam! Il devient aveugle direct. Pas de deuxième chance, là. Tellement c'était violent, je pense, cette rencontre avec la lumière du monde, il devient aveugle. Heureusement pour lui, ça a duré que 3 jours. Après 3 jours, il a recouvré la vue. Et pas peu, en fait, parce que du coup, il s'est rendu compte que ce Dieu qu'il servait, en fait, c'est celui qui persécutait. Il le persécutait, en fait, au lieu de le servir. Et ensuite, dès qu'il a recouvré la vue, il a passé sa vie à annoncer, en fait, que c'était Jésus, le Messie, que c'était lui le Sauveur, que c'était lui qu'on attendait. Et je vais vous lire maintenant un passage de ce que Paul a écrit dans la lettre aux Colossiens. Et j'appelle ça, en fait, le magnifique portrait de Jésus, ce passage. Vraiment, c'est un super passage qui parle de Jésus et qui dresse un portrait de lui juste incroyable. Je vais vous lire ce passage dans Colossiens 1, les versets 12 à 20, dans la version Bible du Semeur. Alors, vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Ce Fils, il est à l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure, et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Waouh! Magnifique ce portrait. Je vous encourage vraiment, si vous n'avez pas d'idée de lecture biblique ces prochains temps, vous pouvez vraiment vous plonger dans ces versets, à les lire, à les regarder, parce qu'il y a vraiment énormément de choses hyper, hyper profondes et hyper belles sur qui est Jésus. Ce matin, je vais vraiment mettre le focus, la lumière, je dirais, sur deux passages vraiment de ces versets. Notamment le fait qu'il dit « Il nous a arrachés des ténèbres pour nous amener dans le royaume de son Fils, donc le royaume de Jésus, donc le royaume de la lumière du monde. » Et c'est après ce que je viens de dire sur comment Paul a rencontré Jésus, pas étonnant qu'il puisse dire ça, hein, pas étonnant qu'il puisse l'écrire. Après, il a expérimenté ça. Il était lui-même arraché des ténèbres pour passer dans le royaume de lumière. Il l'a vécu. Il peut le dire et c'est juste magnifique. Une autre chose qui est intéressante, c'est par rapport à ce que je disais tout au début, il dit qu'il est le premier-né de toute la création. Lui aussi, il a saisi ça, Paul, en sachant que c'est ce royaume de lumière. Lui aussi, il a saisi qu'il était le premier-né de toute création, qu'il était avant toute chose. Ouais, voilà, c'était un rapide survol sur trois personnages simplement qui ont rencontré la lumière. Il y en a d'autres, hein, n'hésitez pas à aller fouiller, à aller chercher. Mais alors du coup, et toi, as-tu fait la rencontre de cette lumière du monde et surtout, est-ce qu'elle remplit ton cœur, cette lumière? Ça va? Vous êtes toujours là? Yes. Je suis un peu à l'ancienne, hein, j'ai encore les feuilles. Ça se fait plus trop ici. Maintenant, on passe aux tablettes. Mais moi, j'ai encore les petites feuilles. Alors voilà, je vous encourage vraiment à allumer la lumière du monde dans vos vies, vraiment. À en faire un réflexe, comme on le fait pour l'interrupteur. Dès qu'il y a une situation, dès qu'il y a un truc, hop, on allume. Et qu'ils viennent remplir nos vies, qu'ils viennent remplir nos situations. Parce que la lumière, ça amène plein de choses. Et là, je vais passer au travers de trois choses simplement que la lumière apporte pour déjà vous donner un petit aperçu de ce que ça peut être de l'amener régulièrement dans nos situations de vie. La première chose, c'est que la lumière, elle apporte l'espoir, elle donne de l'espoir. Alors, comme je vous ai dit au tout début, je travaille avec des personnes qui ont des problèmes psychiques. Certains sont ancrés vraiment dans ces maladies depuis longtemps. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dépressives. Des fois, quand ils viennent dans notre institution, ben, ça fait des mois qu'ils sont plus sortis de chez eux, qu'ils sont dans des ruminations, dans des pensées noires. Et puis, moi, je fais simplement du sport avec eux, en fait. Donc, j'ai un beau rôle, quelque part. Mais c'est intéressant de voir que, simplement, des fois, en faisant du sport, on se lance des ballons et on joue. Et puis, tout à coup, on rigole. Il y a un ballon qui tombe, on se ramasse deux ballons et hop, on rit. Et c'est instinctif. Et moi, j'aime bien mettre ça en lumière, surtout avec des personnes qui sont en dépression. Et je me souviens d'un résident où, à la fin de la séance, je lui ai dit « Waouh, c'était beau de vous entendre rire aujourd'hui. » Et là, je le vois réfléchir. Et là, il me dit « Ah ouais, ça faisait des mois que je n'avais pas rigolé. » Et c'est rien, hein, mais c'est une petite lueur de lumière dans sa vie qui lui dit que la maladie n'a pas tout pris, en fait. Cette semaine, il m'est arrivé plein de trucs. Alors, il y a un truc qui m'est arrivé, c'est que c'est assez ironique pour dire que je pars de la lumière et d'allumer la lumière, c'est que ma voiture est tombée en panne et c'est les câbles d'allumage qui ont lâché. Alors, je me suis dit, wow, assez ironique. Mais du coup, ben, je suis passée au garage lundi Et mon garagiste, il est chrétien, alors on parle souvent de Dieu ensemble. Et puis il m'a dit, ah, qu'est-ce que tu fais cette semaine? Quelles sont tes occupations? Puis je lui ai dit, bah, je suis en train de préparer justement un sermon sur la lumière. Et là, il me dit un truc hyper beau. Il me dit, aussi infime qu'est la lumière dans le noir, quand on la voit, l'espoir renaît. Car on peut désormais suivre quelque chose. On retrouve un but, en fait. Et il y a une présence, il y a quelqu'un. Je ne suis plus tout seul dans le noir, en fait. Il y a une lumière, il y a déjà quelque chose. Et c'est vraiment ça. Souvent, quand il fait sombre, on croit que ça remplit tout. Dans nos vies aussi, quand il y a quelque chose qui se passe, on croit que ça remplit tout. Mais il suffit d'une petite lumière, d'une petite lueur, et ça redonne de l'espoir. Ça va? Cool. Le deuxième point, c'est... Il y en a qui disent amen et tout, mais moi, je suis à la vaudoise. Je dis, ça va. Alors, mon deuxième point, c'est la lumière mène à la vie. Parce que, je ne sais pas si ça vous arrive des fois d'être dans le noir, mais on est vite désorienté. On ne retrouve plus son chemin, on est là, on ne sait plus trop. Maintenant, il y a les Paralympiques. Alors, moi, j'ai servi aussi en tant qu'aumônière aux Paralympiques à Rio. Mais j'ai eu le privilège une fois d'essayer un sport qu'il y a aux Paralympiques qui est le blind football. En fait, c'est le football pour personnes malvoyantes. Et en fait, du coup, ben, il n'y a que le gardien qui voit. Et tous les joueurs, ben, on a quelque chose sur les yeux et on ne voit pas. Donc, j'ai pu tester ce sport. Et donc, le ballon, il a des petites clochettes. Et c'était chouette de tester, mais vraiment, on passait notre temps à essayer de discerner où était ce ballon. On espérait qu'un jour, on puisse avoir le ballon dans les pieds. Et quand ça arrivait... Les peu de fois pendant le match où ça arrivait que tu chopes le ballon dans tes pieds, le problème, c'est que tu ne savais plus où était le but. Et c'est pour ça qu'il y a non seulement le gardien, mais il y a aussi un coach au bord du terrain qui peut donner des instructions pour nous dire « c'est là ou c'est là ». Mais vraiment, c'était impressionnant, quoi. J'avais le ballon, et je ne sais plus, je dois aller à droite, à gauche, je ne sais plus. Et ça, c'est ce que fait quand on est dans le noir. On ne voit plus, on ne sait plus, on ne retrouve plus le chemin. Mais pire encore, je dirais, d'être dans le noir, ça peut même mener à la mort, en fait. On peut même suivre un chemin qui mène à la mort. Et ça, je l'ai aussi expérimenté dans un autre environnement. J'ai fait les pompiers pendant 4 ans dans ma ville à Puy, quand j'habitais encore à Puy. Bon, c'était pas très glorieux. C'était pas une expérience très glorieuse pour moi, ces 4 ans de pompier, parce qu'en fait, je pense que j'aurais jamais dû faire ça parce que j'avais peur du feu, en fait. Alors, c'était pas la bonne idée de faire ça. Mais en fait, du coup, je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi. Enfin, ça m'a pris quand même 4 ans. Mais un jour, j'ai reçu une alarme et puis c'était pour un feu d'appartement. Et j'étais là, non, je ne veux pas y aller. Et puis j'étais dans ce camion-là et puis j'espérais ne pas devoir rentrer dans cet appartement en feu. Et là, en fait, je vois tout à coup le camion des pompiers de Lausanne qui nous passe devant. Là. Les pompiers pros, ils arrivent et puis ils rentrent dans la maison. Puis moi, j'étais là, yes! Et j'étais toute contente qu'ils arrivent avant nous, alors que mes collègues à côté, ils étaient dépités, ils n'en pouvaient plus que les pompiers pros, ils arrivent toujours avant nous et tout. Ils étaient là, mais nous, on veut de l'action. Et moi, j'étais là, trop contente. Merci Seigneur de ne pas m'avoir fait rentrer dans ce feu. Donc, après cet événement-là, ben, j'ai démissionné. J'ai dit, c'est bon, je crois que c'est pas pour moi, quoi. Et par contre, j'ai beaucoup aimé les exercices. J'ai beaucoup aimé apprendre plein de choses dans les exercices. Et on faisait des exercices, par exemple, on rentrait dans des salles où on devait rechercher avec plein d'objets un peu partout. Et puis, on devait retrouver des mannequins, on devait retrouver des victimes comme ça. Et puis, pour faire plus réel, pour faire en situation de feu, ben, on se mettait un plastique sur la visière, donc on n'y voyait juste rien du tout. On était avec notre appareil respiratoire, puis on avait un plastique sur la visière, et puis on rentrait, puis on essayait de trouver des victimes. Et on partait avec ce qu'on appelle un fil d'Ariane. Alors c'est un paquet avec un fil, et puis on essayait justement d'accrocher ce fil un peu partout où on allait, et surtout de ne pas perdre ce fil, parce que c'est ça qui allait nous donner l'indication de où est la sortie et où est le feu. Et en fait, sur ce fil d'Ariane, c'est intéressant, il y a des nœuds, en fait. Et s'il y a un nœud, ça veut dire sortie. Et puis ensuite, il y a un espace, et puis il y a 3 nœuds qui se suivent. Et si on sent ces 3 nœuds, ça veut dire feu, en fait. Donc, quand on vient vers notre ligne, on peut sentir un peu. Si on sent un nœud, ben, on sait que c'est la sortie, elle est là. Et puis, si on sent ces trois nœuds, on sait que la sortie, elle est de l'autre côté. Que le feu est de l'autre côté, pardon. Donc, c'est vraiment réel. Hein. Et moi, j'ai vécu ça vraiment, où on se bouge, où on se tourne, où on prend quelque chose, puis on revient, puis on ne sait plus, en fait, dans quelle direction on doit aller. La difficulté avec ces fils, c'est qu'ils peuvent se décrocher ou tout à coup, on les perd. On n'arrive plus à les retrouver non plus. Et du coup, ben, ce n'est pas non plus une garantie de pouvoir ressortir. Du coup, maintenant, on utilise beaucoup aussi les caméras thermiques qui nous permettent de voir justement au travers des chaleurs. C'est comme des yeux, en fait, dans la nuit. C'est comme des yeux dans la fumée. Je me dis, mais purée, mais nous, on a une caméra thermique et qu'on allume, hein, qu'on l'allume, cette caméra thermique. C'est Jésus qui est le chemin qui mène à la vie, en fait. La lumière montre le chemin qui mène à la vie. S'il y en a qui prennent des notes, je vous répète cette phrase et vous pouvez la noter. Parce que aussi à home, on entend souvent des punchlines. Sabine, t'es forte pour faire des punchlines. La lumière montre le chemin qui mène à la vie. Mais cette phrase, moi, j'ai buggé. Hein. D'abord, je l'ai écrite, puis j'ai fait comme si de rien n'était. Puis après, j'ai buggé dessus pendant un moment. Parce que Jésus, il dit qu'il est la lumière. Jésus, il dit qu'il est le chemin. Et Jésus, il dit qu'il est la vie. Donc c'est une phrase tridimensionnelle en fait. Vous pouvez remplacer Jésus par chaque mot et puis ça vous donne une nouvelle vérité. Mais c'est un truc de fou en fait. Vous pouvez vous amuser comme ça. Presque comme un Rubik's Cube. Non mais c'est taré. Enfin bon, bref, je m'emballe. Ouais, je m'emballe vraiment. Mais gardez cette phrase. Et c'est tellement vrai. La lumière montre le chemin qui mène à la vie. Mon dernier point... pour ce matin, c'est la lumière révèle nos erreurs, des problèmes ou des mensonges que nous croyons. Alors ça, on l'a vu aussi avant avec l'exemple de Paul, en fait. Moi, je me dis, mais si Paul, il n'avait jamais rencontré la lumière, s'il n'avait jamais eu cette rencontre avec Jésus, en fait, il aurait pu passer sa vie à exécuter des gens en pensant servir Dieu, en fait. Donc, ouais, l'importance aussi de pouvoir mettre en lumière des choses. Hein. Et cette expression « mettre en lumière », c'est vraiment une expression connue, mais c'est vraiment ça. On met en lumière des choses qui vont révéler quelque chose, qui vont nous permettre de changer d'attitude ou de changer quelque chose dans nos vies pour plus être dans l'erreur, pour plus croire à des mensonges. Dieu a révélé beaucoup de choses dans ma vie, à plein de moments différents. Une des choses... je pense que un des plus grands mensonges qui m'a révélé avec lequel je vivais, c'était que pendant longtemps dans ma vie de foi aussi, j'ai pensé que je devais mériter l'amour de Dieu en fait. Et Dieu a utilisé un moyen assez improbable, je dirais, pour me révéler ça, ce problème dans ma vie. Il m'a amené au fond d'une cale d'un bateau. En fait, j'ai passé 2 ans sur un bateau. C'est un bateau de l'organisation Opération Mobilisation qui parcourt le monde en fait, où on va amener plein de choses, on va faire on va aider des gens, on va partager l'évangile, on fait vraiment beaucoup de choses sur ces bateaux et puis on travaille tous sur le bateau à quelque part. Et moi, ben, ils se sont dit elle est forte, celle-ci, elle fait du sport, on va la mettre chez les matelots. Et puis, au bout de quelques mois, ils m'ont dit, on te donne un job plus spécifique, tu seras storekeeper. En fait, c'est la gestion du matériel, des outils. Et pour ça, j'avais un bureau qui était au fond de la cale, en fait, du bateau. Vraiment, un endroit si reclus, en fait. On était 350 sur le bateau, de 50 pays différents. Mais cet endroit, il était si reclus que je pense qu'il y avait une vingtaine de personnes seulement qui connaissaient cet endroit, tellement il était bien profond. Et moi, je passais la plupart de mes journées là-dedans, dans la cale. Donc, j'étais partie sur ce bateau pour servir Dieu. J'étais partie pour faire des choses, pour partager l'évangile. J'étais partie, je vais agir, je vais faire des trucs pour Dieu. Et puis, je me retrouve au fond de cale. Et là, je suis un peu énervée, quoi. J'avoue, j'ai un peu, un peu d'incompréhension. Et je dis à Dieu, mais ça veut dire quoi, en fait ? je lâche tout, je lâche mon job, je lâche ma famille, je lâche ma carrière de sportive que j'ai lâchée pour aller sur ce bateau. Et je lâche tout, et puis je viens de servir, et puis je me retrouve au fond d'une cale, ça veut dire quoi ? Et comment j'ai pu tomber si bas, surtout ? Et c'est là que la lumière est apparue. pas tout à fait, pas au sens littéral, mais vraiment, c'est au fond de cette cale que Dieu a vraiment commencé à m'expliquer, à me faire comprendre que ma valeur, elle ne dépend pas de ce que je fais, en fait. Et que son amour est inconditionnel, que son amour, il est là avant même que je fasse quoi que ce soit, comme pour Jésus, d'ailleurs. Moi, j'adore ce passage quand il est baptisé et puis qu'il y a le ciel qui s'ouvre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il n'avait encore rien fait, il n'avait pas encore commencé son ministère. Et tu entends déjà que Dieu l'aime profondément. Et moi, au fond de cette cale, c'est ça que j'ai pu ressentir. Un amour, alors qu'il ne se passait rien, alors que je ne faisais rien, qu'il ne se passait absolument rien. Et les journées étaient longues et ennuyeuses. Mais j'ai ressenti cet amour de Dieu pour moi. Et j'ai compris que cet amour, il ne dépendait pas de ce que je faisais. Et c'était hyper important d'apprendre ça. Et c'est quelque chose qui... Je dois constamment revenir à cette vérité-là. Parce que c'est extrêmement difficile. Et dans mon métier aussi, d'aumônière auprès des sportifs, c'est quelque chose que... Je pense que c'est la chose la plus dure à saisir pour un sportif. Tellement on a appris depuis tout petit à mériter. Tout ce qu'on fait, on doit le mériter. On doit mériter l'approbation du coach. On doit mériter l'affirmation des spectateurs. On doit mériter l'amour des gens par ce qu'on fait, par nos résultats. Et on apprend ça tellement tout long, depuis tout petit. Et cette vérité-là, que son amour est inconditionnel, c'est quelque chose qui est contraire à tout ce qu'on apprend, qui est contraire à tout ce que le monde nous montre. Mais Dieu est venu révéler ça. Sa lumière est venue transpercer les ténèbres de ma cale pour me révéler ça. Voilà. J'avais vraiment à cœur de vous parler de ça, mais je ne savais pas comment l'amener, donc là, c'est fait. je pourrais parler encore de plein de choses sur la lumière. Il y a vraiment encore tellement d'aspects que vous pouvez prendre. C'est comme un diamant, puis vous pouvez le tourner dans tous les sens, puis vous découvrirez encore un nouveau faisceau lumineux. Il y a la sécurité aussi dont je n'ai pas parlé. La lumière amène la sécurité. Ça, c'est quelque chose que nous, les femmes, on comprend assez facilement. Hein. On préfère quand même marcher en pleine rue la journée ou dans une rue bien éclairée que la nuit dans une rue sombre. Donc, on comprend bien le lien entre la lumière et la sécurité. Mais je ne vais pas aborder ça plus longuement. Je vous laisserai vraiment là aussi aller chercher plus loin aussi, questionner Dieu sur tous les aspects, tout ce que cette lumière veut dire. Ouais, allez chercher. Et je vous invite à nouveau, je l'ai déjà dit, mais à nouveau, je vous invite vraiment à prendre cette habitude d'allumer la lumière dans ta vie, dans tout ce que tu vis. Quand c'est sombre, quand tu perds l'espoir, allume cette lumière. Et concrètement, comment quoi ? Concrètement, on peut se dire, ouais, ben c'est bien joli, allume la lumière, mais moi, l'interrupteur, je sais, je peux aller, puis je peux allumer l'interrupteur, et puis c'est bon, il y a la lumière qui se déclenche, mais... La lumière du monde, la lumière de la vie, comment je fais pour l'allumer chez moi ? Je vais vous donner un petit exemple de ce qui m'est arrivé cette semaine, où bah, j'ai dû mettre déjà en pratique ce sermon, en fait. Je vous ai dit avant que je suis tombée en panne avec ma voiture, ça c'était samedi. Et puis mardi, en fait, je faisais de la grimpe avec un résident, justement, dans le cadre de mon travail. Et puis je me suis coincée le dos. Pendant que je faisais la grimpe, mais vraiment bien coincée. Quoi. Vous m'auriez vu mardi soir, j'étais une grand-mère, je m'imaginais déjà être ici sur une chaise ce soir. Ma voisine Cornelia qui m'a vue le soir, j'en venais pas large, j'étais vraiment mais cassée. Quoi. Et je me dis, c'est étonnant quand même, toutes ces choses qui se passent comme ça. J'étais là, mais ça veut dire quoi ? Et puis... Ben, comme je préparais un sermon sur allumer la lumière, je me suis dit, ben, c'est peut-être le moment de le mettre en pratique. Et du coup j'ai simplement dit, ben, Seigneur, viens mettre ta lumière là-dedans, en fait. Ça veut dire quoi, cette panne de voiture, ce problème de dos, ça veut dire quoi ? Viens mettre la lumière, amène ta lumière. Et assez vite, j'ai eu des petits retours de mémoire qu'en fait, ma voiture m'avait montré des petits signes que ça il y avait quelque chose de pas normal en fait. Plusieurs jours avant, il y avait des petits signes comme ça. J'ai dit ouais, c'est bon, ça roule. J'ai pas allé chercher plus loin. Et puis mon dos aussi. Il y a pas mal de signes aussi qui me montraient que j'étais fatiguée. Je ne me suis pas préparée comme je me prépare d'habitude. Je ne me suis pas bien chauffée. Je n'ai pas bien mangé avant. Des petites choses comme ça que je n'ai pas fait comme je fais normalement. Et ce n'est pas étonnant. Et en fait, sa lumière, elle est venue me montrer avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour. Elle est venue me montrer, en fait, il y avait des avertissements pour les deux situations et tu n'as pas écouté, en fait. Et ça m'a fait que, en fait, je me dis, ah ouais, c'est vrai. Effectivement. Donc j'ai mieux accepté tout ce qui m'arrivait. Je dirais, ben, c'est pour ma poire. J'aurais dû faire mieux attention. Et puis surtout, ça m'a amené à changer un peu les choses pour plus que ça se produise, que je sois plus à l'écoute, que je modifie certaines choses pour essayer au plus d'éviter ce genre de choses. Donc c'est tout simple en fait, parce que il suffit juste d'inviter Jésus, parce que ensuite c'est lui qui révèle. Ensuite c'est lui qui va montrer des choses, qui va peut-être ramener des gens. Voilà. Voilà. J'espère que vous pouvez prendre quelque chose ce matin de tout ce qui a été partagé. Comme je vous ai dit au début, je suis plus à aimer témoigner que faire des prédications. Donc il y avait beaucoup de parties témoignages, mais j'espère que ça peut vous parler. On va prendre un petit temps maintenant où on va passer de la musique. C'est un petit temps que je vais vous offrir aussi pour vous ce matin. Vous pouvez faire ce petit exercice aussi d'allumer la lumière dans votre cœur, d'inviter Jésus à venir mettre en lumière des choses, ou vous réchauffer aussi de sa lumière ce matin, de vous remplir pleinement de tout ça. Ce qui me permettra aussi de mettre mes lunettes après. Alors voilà, si t'es confus ce matin, si t'es désespéré, perdu, si tu manques d'espérance, peut-être vous avez des situations dans vos vies où vous dites, mais là je vois plus le bout. Je pense aussi à beaucoup de personnes, peut-être au niveau de leur emploi, ou des jeunes là qui cherchent leur chemin, qui perdent espoir, qui se disent, mais je ne sais plus où aller, j'ai frappé à tellement de portes, je ne sais plus où aller. Si tu ne vois pas le bout du tunnel, si tu ne retrouves pas le chemin, si tu es pris aussi par la noirceur du monde en ce moment, la noirceur de toutes les nouvelles qu'on entend, ces ténèbres qu'on entend de partout, si tu es pris par tout ça, ben, invite la lumière dans ton cœur ce matin. S'il y a des zones aussi de ton cœur où tu te dis, là ça manque de lumière, c'est un peu dans l'ombre, là il y a quelque chose que j'ai pas tout compris, invite la lumière aussi ce matin. Si au contraire t'es rempli d'espoir, si en entendant ce matin parler de la lumière, ton cœur il bondit de joie, si t'es rempli de cette lumière, alors approche-toi des autres. Reste en lien avec les autres, qui puissent aussi voir cette lumière, que ça puisse leur amener cette lueur d'espoir dans leur vie. Célèbre, si tu as la lumière en toi, approche-toi des autres, viens leur montrer cette lumière. Amène des paroles de vie dans leur vie qui peuvent amener cette lueur. Des trucs tout bêtes, comme j'ai dit, c'est beau de te voir sourire ce matin. Petite lueur d'espoir qui montre que la maladie n'a pas tout pris. Je vous invite à un petit temps de recueillement et puis je prierai pour vous ensuite. Oui, Père, continue à répandre la lumière du monde sur cette terre. D'une parole, t'as amené la lumière dans ce monde, que la lumière soit, et la lumière fut, et viens vraiment, Père, transpercer toutes les ténèbres de ce monde par ta lumière. Seigneur Jésus, viens transpercer aussi les ténèbres de nos cœurs par ta lumière. Aide-nous et rappelle-nous aussi que cette lumière est là, cette source de lumière est là pour nous, à chaque instant, dans tout ce qu'on vit. Ne nous laisse pas nous dépatouiller dans le noir, à tâtonner, mais rappelle-nous par ton esprit que tu es là, que tu peux nous montrer ce chemin de vie. Et Père, je prie pour chaque personne ici, dans leurs doutes, dans leurs questionnements, dans leurs zones grises ou zones sombres de non-réponse, que tu viennes y déverser une lueur d'espoir, une lueur qui montre aussi plus, qui amène plus loin, qui amène plus près de toi. Et merci. Merci de nous faire passer dans ce royaume de lumière. Merci Seigneur, car quand on t'invite dans nos cœurs, tu nous fais passer dans ton royaume de lumière. Et permets-nous d'y rester dans ce royaume de lumière et d'y recevoir tout ce dont on a besoin chaque jour, chaque instant. Et je te remets Seigneur, cette famille de home, je te remets mes frères et sœurs, je te remets chacun d'entre nous. Que tu continues à veiller sur nous chaque jour. Que tu nous protèges, que tu prennes soin de nous et qu'on puisse à notre tour aider d'autres personnes à trouver cet interrupteur. Ouais, qu'on puisse vraiment s'approcher des autres avec la lumière de la vie pour leur donner de l'espoir et qu'on les aide à savoir qu'il y a cette source lumineuse qui existe pour eux aussi. En ton nom, Seigneur Jésus, je prie. Amen.
Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com.